Le débat du jour, Florent Guignard.
Bonsoir et bienvenue dans le débat du jour sur RFI. Macron peut-il garder Bayrou? Le ministre de la Justice est-il devenu un allié encombrant pour le président de la République? François Bayrou est l'auteur du premier couac de la présidence Macron quand il s'est publiquement opposé au Premier ministre qu'il avait rappelé à l'ordre après un curieux appel téléphonique à Radio France. Le ministre en charge de la première grande loi du quinquennat pour moraliser la vie politique est-il si exemplaire? Le MoDem, son parti, est soupçonné comme le Front National d'avoir fait payer ses salariés par le Parlement européen. À deux jours du second tour des législatives qui s'annonce comme un raz-de-marée pour La République En Marche, Emmanuel Macron pourrait-il se passer du MoDem et donc de son président qui prétend l'avoir fait roi en se ralliant à sa candidature deux mois avant la présidentielle? Pour en débattre, deux invités, deux politologues. Olivier Roucan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences politiques et vous avez publié récemment un livre intitulé « En finir avec le président ». Et puis au téléphone, Alexis Massard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'École européenne de sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Lille et vous avez beaucoup travaillé sur le centre et donc sur François Bayrou.
Voilà en quelques mots l'introduction qu'il a pu porter, complétée par les mots du Premier ministre qui met en œuvre cette polémique, cette politique, pardon. Il y a eu un échange entre le Premier ministre et le garde des Sceaux. Aujourd'hui, la situation est, à mon sens, totalement pacifiée. Il n'y a pas de tension particulière à l'heure qu'il est. Il n'y a eu aucun échange particulier qui pourrait faire état d'une tension. Et donc, je voudrais vous rassurer sur ce sujet. Personne n'est lâché, à commencer par le garde des Sceaux, mais aussi les autres personnalités qui sont au Conseil des ministres.
C'était avant-hier, mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, une déclaration du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, soutien renouvelé donc à François Bayrou, ministre de la Justice et président du MoDem. Alors on va très rapidement résumer ce premier couac du quinquennat. Tout commence quand François Bayrou apprend que des journalistes de Radio France enquêtent sur des emplois d'assistants au Parlement européen. Emploi présumé fictif. En gros, l'Europe a-t-elle financé des salariés du MoDem? Coup de fil du garde des Sceaux à la rédaction de Radio France pour se plaindre de l'enquête. Coup de fil ou coup de pression de celui qui est ministre de la Justice. François Bayrou se défend en disant que c'est le citoyen et pas le ministre qui a appelé. Recadrage public du Premier ministre et réponse tout aussi publique de François Bayrou sur le thème « Personne ne m'empêchera de parler ». Alors, un mois après la nomination de ce gouvernement, est-ce donc un couac semblable à tous ceux qui ont émaillé le précédent quinquennat de François Hollande, Olivier Roucan?
Bon, disons que nous sommes à l'ère et à l'heure de la démocratie d'opinion instantanée où la pression des réseaux sociaux, des médias sur les acteurs politiques est constante. Et il faut réagir, il faut se positionner en permanence dans le débat si on veut exister et si on veut entraîner aussi les citoyens dans la vie publique et dans le débat. Donc il est illusoire de penser, à mon avis, que les fameux couac du quinquennat Hollande était dû uniquement à la personnalité de l'ancien président.
Donc ce à son manque d'autorité.
Oui, mais tout ceci était une analyse, à mon avis, un peu rapide. Alors peut-être qu'il peut y avoir une modération, de la tempérance, un peu moins de maladresse, mais ça va malgré tout marquer, continuer à marquer la vie politique, ce genre de choses. Et là, il y a en plus, évidemment, derrière ce entre guillemets couac, des rapports de force, parce que c'est ceci dont il s'agit à chaque fois. Et ce rapport de force...
On en parlera tout à l'heure, voilà. Dans la perspective de l'après-législative. Alexis Massard, est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Roucan? Vous considérez que François Hollande, comme Emmanuel Macron, c'est pareil et qu'il y aura autant de couac?
C'est pas tout à fait la même situation. Alors, je suis d'accord sur l'approche de démocratie d'opinion, hein, ça c'est évident. Simplement, la différence qu'on vit aujourd'hui, c'est que on a un François Bayrou qui est le chef d'un parti allié au parti a priori majoritaire, alors que les couacs auparavant sous la Hollande étaient au sein même du parti que François Hollande avait lui-même dirigé. D'accord, donc là, on est effectivement dans une logique de rapport de force, mais non pas au sein de la même formation politique, mais entre deux formations politiques, dont une qui est bien évidemment bien moins importante que l'autre, et pour laquelle il est nécessaire de jouer un peu les coudes pour montrer qu'on existe.
Est-ce que cette affaire, finalement, Olivier Roucan, elle n'émeut que le microcosme politico-médiatique, ou est-ce qu'elle peut avoir un impact dans l'opinion publique?
Pour l'instant, je pense que l'impact doit être modéré, parce que il y a une saturation là de politique. Donc je pense que les citoyens, on l'a vu d'ailleurs malheureusement du fait de l'abstention, s'éloignent un peu des coups au jour le jour qui peuvent marquer la vie, mais si cela devait durer, et surtout sur cet enjeu on va dire de l'éthique et des règles du jeu. En cette matière, là, par contre, ça pourrait rapidement produire des dégâts, puisqu'on a vu que cela n'était pas sans compter sur une dépréciation générale et très partagée, ou de plus en plus partagée, du lien qu'entretiennent les Français là, aux politiques.
Alexis Massard, à deux jours des législatives, ça peut avoir un impact sur le résultat, ou tout est déjà joué?
Ah, pour moi, tout est déjà joué. D'ailleurs, c'est, semble-t-il, ce que pense l'opinion, puisqu'on nous annonce là une abstention qui sera encore supérieure à celle du premier tour. Donc, dans l'esprit d'une bonne partie de nos concitoyens, les jeux sont faits. Donc, l'impact sera mineur.
Alors, ne pas commenter les affaires en cours, c'était la posture affichée du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a défendu au début du mois sa présentation à la presse du projet de loi de la moralisation de la vie politique, rebaptisé d'ailleurs projet de loi pour la confiance dans notre vie démocratique. Interrogé sur l'affaire Ferrand, Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, mis en cause pour un curieux mélange des genres. Écoutez la réponse que faisait François Bayrou, la main sur le cœur et le code de procédure pénale dans l'autre main.
La loi qui s'applique à la fonction de garde des Sceaux et de ministre de la Justice, cette loi interdit que je puisse faire quelques commentaires que ce soit dans des affaires individuelles. Et je n'en ferai pas.
Mais deux semaines plus tard, patatras, la belle posture s'effondre quand il s'agit de défendre ses propres intérêts et répondre cette fois aux accusations d'emploi fictif financé par le Parlement européen. C'était cette semaine sur RTL.
Sur le fond du dossier, y a-t-il eu des emplois fictifs? Est-ce que des hommes et des femmes ont été au service du MoDem alors qu'ils étaient payés par le Parlement européen?
En aucune manière.
Ça n'a jamais existé.
Ça n'a jamais existé.
Ça ne sera pas prouvé.
Il y a eu des mi-temps. C'est-à-dire collaborateurs qui étaient à mi-temps ou à tiers de temps ou à 60% de leur temps, à temps partiel, travaillant, assistant avec des parlementaires européens et qui, pour l'autre mi-temps, avaient des responsabilités à l'intérieur de notre organisation.
Voilà, François Bayrou sur RTL qui défend son mouvement politique, le MoDem. C'est le ministre de la Justice qui parle, qui est président aussi du MoDem. Est-ce que cette déclaration, il commente une affaire en cours, est-ce que selon vous c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs?
Il faut être prudent avec ce qui est souvent, qui vient souvent dans le débat. Oh là là, la grande atteinte à la séparation des pouvoirs. Donc restons prudents. Il parle bien de commentaires sur des affaires individuelles dans sa déclaration. Il parle d'affaires individuelles. Alors là, ce sur quoi il agit, c'est de financement et de pratiques qu'ont eu les partis politiques pendant assez longtemps.
Enfin, qu'il concerne directement lui, président du MoDem.
Et qui alors qu'il concerne pour l'instant des salariés de ce parti. Et voilà, alors ensuite, si on arrête de jouer sur des détails, il est clair que c'est une position inconfortable, mais il faut être réaliste par rapport à l'enjeu du financement de ce type d'emploi. Il est relevé que nombre de partis politiques ont pu utiliser ce genre de pratique, et qu'il est parfois difficile de savoir, par exemple, aussi dans un temps partiel, le temps consacré aux fonctions respectives. Il est de notoriété publique que certains assistants parlementaires, et pas seulement européens, pendant les périodes de campagne pendant lesquelles le Parlement ne siège pas, sont mis au service de la campagne électorale du député sortant. Donc, si vous voulez, il faut clarifier les choses pour l'avenir.
Alexis Massard, je reviens sur cette thématique de la séparation des pouvoirs. Le ministre de la Justice qui commente une affaire qui le concerne personnellement, est-ce que pour vous c'est un problème?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est une affaire qui n'est pas une affaire typiquement individuel, c'est pas lui personnellement qui est mis en cause, mais bien l'ensemble du MoDem. On est sur une question où tout le monde est sur un fil. François Bayrou, qui est à la fois garde des Sceaux avec la déclaration que vous avez rappelée, mais qui en même temps est le président de la formation politique qui est incriminée dans cette histoire. Or, il a, par définition, à répondre aussi de ce qui a pu se passer. Sans compter, en plus, pour compléter ce que disait mon collègue, c'est que sur la question des assistants parlementaires, on est en plus de ça, assez souvent, vers des personnes qui sont de vrais militants du parti. Donc il faut comptabiliser le temps en tant qu'assistant parlementaire, éventuellement le temps partiel pour le parti, mais il y a aussi quelquefois le temps qu'on donne naturellement parce que on est militant de ce parti. C'est très très complexe à faire la différence dans tout ça. Donc, pour revenir sur la question de la séparation, non, je n'y vois pas à ce stade un problème majeur.
Il y a une règle qui a été édictée depuis longtemps, notamment sous le quinquennat Hollande, et c'est la règle aussi qui prévaut sous le quinquennat Macron. Hein. Si un ministre est mis en examen, il démissionne. Alors évidemment, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Il y a juste une enquête préliminaire qui a été ouverte. Mais avant d'être mis en examen, on est convoqué par un juge ou chez les policiers. Est-ce que cette situation ne risque-t-elle pas d'être intenable pour François Bayrou, Olivier Roucan?
C'est ce que nous disions tout à l'heure, si ça prend plus d'ampleur et si cela s'installe dans la durée, ça sera, comme vous dites, intenable, surtout à ce ministère et surtout au moment où il faut défendre un projet de loi relatif à la confiance dans la vie publique, et même malheureusement si évidemment tout ceci donne lieu à beaucoup d'amalgames, à des simplifications outrancières, mais intenable par rapport aux médias, par rapport à l'opinion publique, ça risque de l'être si tout ceci pour François Bayrou ne s'arrête pas très vite sur le plan judiciaire.
Alexis Massard, la question de la confiance dans ce projet de loi sur la moralisation de la vie politique, est-ce qu'elle ne risque pas précisément d'être entamée par ces affaires ?
Si, c'est clairement le risque majeur. Ceci étant, aujourd'hui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe n'ont pas le choix. Ce texte vient d'être présenté par François Bayrou au Conseil des ministres. Ce sera le premier texte débattu par la future Assemblée. Il n'est pas imaginable aujourd'hui de changer le porteur de projet, sauf si effectivement on basculait vers une mise en examen.
Donc le coup politique serait trop fort pour l'instant si Emmanuel Macron se séparait déjà de François Bayrou.
Tout à fait, à la fois par rapport au texte dont nous venons de parler, mais également plus globalement par rapport au message que le nouveau chef de l'État entend porter, à savoir que même si sa formation politique est majoritaire à l'Assemblée nationale, il veut aller au-delà et ne pas donner le sentiment d'avoir un parti monolithique. Donc commencer le septennat en se séparant aussi rapidement d'un allié qui est présent depuis février, ça poserait problème en termes d'image globale du message tenu par Emmanuel Macron.
Alors François Bayrou est-il un problème pour Emmanuel Macron? Et je vous propose d'écouter tout de suite ce que disait François Baroin, le chef de file du parti Les Républicains pour les législatives. C'était hier matin sur BFM Télé.
Il est certain qu'un garde des Sceaux, président d'un parti politique, qui fait l'objet désormais d'une enquête judiciaire sous l'autorité du procureur de la République, qui est lui-même sous l'autorité administrative du garde des Sceaux, je pense que ça va quand même poser des problèmes. Est-ce qu'il a accès à des informations ou pas? Pourquoi ne pas nommer plutôt tout de suite un magistrat instructeur indépendant dans le cadre d'une enquête préliminaire, au moins pour qu'il se déporte? Je pense que ce problème-là particulier, parce qu'il est garde des Sceaux, pas parce qu'il est président du MoDem. Le problème Bayrou, s'il existe, il va être très vite pour Emmanuel Macron.
Voilà, François Baroin sur BFM Télé. Alors, François Bayrou, depuis quelques années, s'est présenté un peu comme la figure du chevalier blanc, de la moralisation de la vie politique. Il avait, dès 2007, présenté un projet de loi, proposé un référendum sur la question. Alexis Massard, vous qui connaissez bien le centre et les affaires du centre et de François Bayrou, on pense aux années 90, l'affaire de la caisse noire du CDS, comme l'a rappelé récemment le site d'information Les Jours, le nom de François Bayrou était apparu avant qu'un témoin le dédouane de toute malversation. Est-ce que la conversion de François Bayrou est d'abord une posture politique, notamment en 2002 lorsqu'il choisit de s'opposer à Jacques Chirac, inquiété par les affaires ?
sûr politique, pas uniquement. Je crois qu'il y a vraiment un engagement de fond de François Bayrou sur la volonté d'une moralisation. Alors, si vous voulez, je pense sincèrement que ce qui est important pour lui, c'est la manière dont nos concitoyens regardent la vie politique. Alors c'est ça qui est au centre de sa réflexion. Et non pas un chevalier blanc qui voudrait forcément mettre de l'ordre partout. Parce que lui, comme d'autres responsables de partis politiques, a eu des pratiques à une époque où le financement de la vie politique n'était pas aussi encadré qu'elle l'est aujourd'hui, et encore moins qu'elle le sera plus tard. Donc c'est pas masquer des agissements, c'est comment faire en sorte que les citoyens aient davantage confiance dans l'ensemble du système politique. C'est ça, je pense, qui est au centre de sa réflexion.
Alors, je le disais au début de cette émission, on approche de la fin d'une très longue séquence électorale. La République En Marche pourrait rafler plus des trois quarts des sièges et obtenir à elle seule la majorité absolue. Olivier Roucan, on l'a brièvement abordé tout à l'heure, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait se passer du MoDem ? Est-ce que c'est son intérêt ?
Il me semble que son intérêt, dans un premier temps, est d'avoir le MoDem clairement dans sa majorité, tout en ayant un MoDem relativement affaibli. Notamment sur le nombre de députés du MoDem, manifestement une soixantaine. Il est clair que dans la majorité pléthorique, mais le garder au sein du gouvernement et s'appuyer sur le MoDem me semble être une tactique plus intéressante pour Emmanuel Macron que celle de les laisser seulement à l'Assemblée constituer un groupe parlementaire qui rapidement pourrait devenir une épine dans le pied et très critique. Alors cela se produira, le MoDem fera entendre sa différence, mais ça ce sera plutôt un avantage, comme il a été dit, parce que, si vous voulez, il faut malgré tout, et d'autant plus que si on promet 400 ou plus de députés, une telle majorité donnera un peu l'impression d'une démocratie délibérative, je dirais pas en berne, mais peu dynamique, parce que où sera l'opposition ?
Alexis Massard, est-ce que dans ce gouvernement, François Bayrou a un statut à part ? Il rappelle régulièrement que c'est son ralliement en février qui a permis à Emmanuel Macron de creuser l'écart et de se qualifier en tête pour le second tour.
Alors là, il y a une double lecture. C'est-à-dire qu'il y a la lecture de François Bayrou, inévitablement à son avantage, qui explique que c'est grâce à lui qu'Emmanuel Macron est devenu président de la République. Ceci étant, j'avais participé à la conférence de presse. Je peux vous dire que quand il a pris cette décision, c'est parce qu'il n'avait plus le choix et qu'il savait que de toute manière, il ne serait pas qualifié et qu'en plus de ça, il posait un risque financier sur le MoDem qui n'était pas neutre, puisque entre 5 et 6% d'intention de vote, si on termine à moins de 5% à l'élection présidentielle, les frais de campagne ne sont pas remboursés. Donc François Bayrou réécrit l'histoire à son avantage. Du côté de La République En Marche, on rappelle aussi assez facilement que si le MoDem inexistant aujourd'hui à l'Assemblée aura un groupe à partir de la semaine prochaine, c'est avant tout grâce à la vague Macron. Donc si vous voulez, chacun là regarde son propre intérêt et on a un double discours qui se met en place.
Il y a une espèce d'équilibre des forces, Olivier Roucan. Il y a un jeu de rapport de force en ce moment entre entre La République En Marche et le MoDem, entre Emmanuel Macron et François Bayrou.
Alors il y a un rapport de force comme l'a dit Monsieur Massard, est très bien exploité par François Bayrou, mais il y a un déséquilibre majeur, c'est-à-dire que numériquement et puis dans la dynamique, c'est bien La République En Marche qui est le dominant.
Merci, c'est la fin de ce débat. Merci Olivier Roucan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, On finir avec le président. Merci aussi à vous, Alexis Massard. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de l'École européenne de sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Lille. Cette émission a été préparée par Florence Ponce et réalisée par Claude Battista. Très bonne soirée à tous.